France Inter.
Avant d'être défenseur des droits, Claire Hédon a reçu une formation de juriste et exercé le métier de journaliste. Ancienne présidente d'ATD Quart Monde, mouvement de lutte contre la grande précarité, celle qui se bat pour l'accès de tous aux droits, est une familière émérite de la maison, puisqu'elle est passée par France Bleu, RFI et France Inter. Elle a publié plusieurs ouvrages sur les questions de santé, de nutrition ou de société, comme « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté », coécrit avec Jean-Christophe Sarrault et Marie-France Zimmer, « Zéro chômeur, 10 territoires » relève le défi avec Didier Goubert et Daniel Le Guillou, Le Sida aujourd'hui, qui était paru en 2008, et l'ouvrage collectif La vérité sur vos médicaments. En 2017, Claire Hédon a été nommée membre du comité consultatif national d'éthique. À travers ses différentes missions, elle a toujours poursuivi la même quête, défendre les droits de chacun et renforcer la démocratie. Elle achèvera son mandat de défenseur des droits en juillet prochain, ce qui ne l'empêchera pas de continuer d'œuvrer pour la dignité sous une autre forme. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Claire Hédon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Pas facile, hein ?
Bah non, surtout qu'on va parler que de choses qui vont pas bien ce soir.
Dans le contexte actuel, si... Moi, je trouve qu'une jeunesse qui se mobilise plus que ce qu'on imagine et qui reste enthousiasmante, qui réagit, je pense aux jeunes femmes qui ne laissent rien passer, de choses que moi, j'ai peut-être un peu trop laissé passer quand j'étais jeune. Donc oui, cette jeunesse, elle me donne de l'espoir. Sa vie n'est pas facile pour l'instant. La question de la santé mentale est quelque chose de très difficile pour les jeunes aujourd'hui avec des difficultés d'accès aux soins, mais elle m'enthousiasme, cette jeunesse, malgré le contexte actuel. Hein,
mais alors, bien sûr, mais les difficultés d'accès aux soins, est-ce qu'on n'a pas plus accès aux soins aujourd'hui, paradoxalement ?
Ah bah, qu'il y a un siècle, oui, si oui. On va dire. Mais,
oui, bah, soyons optimistes.
Soyons optimistes, et plus que dans des pays en développement, d'accord, mais on est quand même dans des situations difficiles. Et je dirais plus général pour moi de la question de l'accès aux droits. J'ai l'impression qu'on est passé par des années après la Seconde Guerre mondiale de progrès, d'avancée dans la défense des droits, où c'était une évidence pour tout le monde. Et là, on est dans une phase où on n'est pas en développement, on est en défense, en défensive, en essayant de garder les droits acquis. Donc c'est vrai qu'il y a une situation plus difficile que ce qu'elle n'a été. Et que nos droits, il faut les chérir, ils sont importants. Enfin, je veux dire, c'est la défense des droits qui nous permet de vivre en société. Une démocratie, c'est un endroit, justement, où c'est pas la loi du plus fort et où il y a des droits, où le respect des droits fait partie de la démocratie.
Et d'ailleurs, je voudrais vous citer dans une interview récente, parce qu'on parle rarement des bonnes nouvelles, mais quand même, nous ne voyons pas les mêmes choses qu'il y a 40 ans, c'est certain, disiez-vous. Le pays a connu une ère de grande progression des droits, et là je les cite, l'abolition de la peine de mort en 81, la dépénalisation de l'homosexualité en 82, la Convention internationale des droits de l'enfant en 89, la loi contre les exclusions en 98. Mais depuis un certain temps maintenant, les droits ont cessé d'être un repère. Bon, ça, on va entrer dans les détails. Vous avez été journaliste, puis présidente d'ATD Quart Monde, depuis 2020 défenseur des droits. Tous ces postes d'observation se complètent pour vous ?
Oui. Ma grande découverte, c'est en fait quand je rencontre le mouvement ATD Quart Monde et que je comprends que la pauvreté, c'est pas simplement un manque de revenus financiers, c'est des difficultés d'accès aux droits. Et des droits qui sont le droit au logement, le droit au travail, le droit à une éducation de qualité, le droit à l'accès à la culture, à l'accès aux soins. Et que tous ces droits sont en fait dépendants les uns des autres et interdépendants. Et que si on veut lutter efficacement contre la pauvreté, il faut travailler sur cet accès aux droits. Et il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres à faire valoir leurs droits. Et d'ailleurs, l'institution du défenseur des droits, elle a été créée pour ceux qui ont le plus de mal à faire valoir leurs droits, en complément de la justice, même si de fait, on s'adresse à tout le monde. Mais je veux dire, cette prise de conscience, moi, a été importante, et cette rencontre avec le mouvement ATD Quart Monde, qui réfléchit je dirais pas simplement à la lutte contre la pauvreté, mais finalement, dans quelle société veut-on vivre? Et moi, j'ai envie de vivre dans une société qui est inclusive, où tout le monde a sa place, tout le monde trouve sa place. Et ça, ça demande effectivement de réfléchir les choses autrement.
Est-ce que vous, qui avez toujours été sensible justement à la dignité, au droit, au respect des plus vulnérables, vous pouvez raconter l'histoire de votre grand-père maternel?
Mon grand-père était officier pendant la Seconde Guerre mondiale et il dirigeait, en fait même, il était général, dirigeait le sud de la France, et il a été dénoncé alors qu'il était en même temps dans la résistance, et il a été déporté. Alors c'est une déportation particulière quand c'est des officiers, il n'a pas du tout été maltraité comme dans des camps, hein. Mais enfin c'est quand même une détention. Effectivement, c'est une histoire qui a beaucoup marqué la famille. Il est revenu, hein, mon oncle aussi est revenu. Mais c'est vrai que j'ai été élevée dans cette histoire familiale, dans cette idée qu'il fallait résister, qu'il y avait des moments absolument inadmissibles. Et toute l'histoire de mon grand-père raconte le moment où justement il considère qu'il se passe des choses qui sont absolument inadmissibles. Et oui, je pense que j'ai été élevée dans cet esprit de résistance. Ma mère était, je pense, enfin voilà, beaucoup d'admiration pour son père. Elle-même a fait de la résistance et a toujours minimisé ses actes, parce qu'elle était jeune, elle avait entre 14 et 18 ans. Et or, en fait, quand on sait ce qu'elle a fait, je veux dire, elle a quand même accompagné un préfet, elle a transporté à des moments des armes, enfin, elle a fait des choses qui ne sont pas totalement banales pour une jeune de 14 à 18 ans. Nous, elle nous a toujours minimisé ses faits. Mais voilà, je pense que j'ai été à la fois éduquée dans une famille assez classique, de la bourgeoisie classique, mais quand même avec cet esprit du le respect de la dignité des personnes est quelque chose d'absolument fondamental. Et oui, ça m'a bercée dans mon enfance. Et aussi, je pense avec quelque chose du... J'ai plutôt eu de la chance dans la famille dans laquelle je suis née, et aller se préoccuper des autres et de ce que vivent les autres était quelque chose d'important. Pas rester dans son cocon.
Mais j'aimerais bien ajouter aussi au sujet de votre grand-père qu'il a été arrêté par la Gestapo et qu'ensuite il est devenu premier secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
C'est mon oncle.
Ah, c'est votre oncle, grand-père. Pardon.
Mais effectivement, mon grand-père a été arrêté en fait avec ses deux fils. Il y en a un qui a été libéré parce que ma grand-mère a raconté qu'il avait la tuberculose. En fait, elle est faire des faux. Ma grand-père qui était très classique.
Ah oui, mais je pensais
faire
que
carrément
oui.
Des faux. Et donc il y a un des deux oncles qui a pu ressortir, l'autre a été déporté, et c'est cet oncle, François Altmaier, qui est effectivement déporté jeune et tout ça, et qui a été le premier directeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Voilà, la question de la réconciliation.
Bah oui, c'est assez remarquable.
Est importante. Oui.
Vous
êtes bien renseigné, dis donc.
Ah bah évidemment, je suis détective privée. Vous êtes issu d'une famille de médecins, votre père était officier de marine. Le soin et le combat, ça pourrait vous définir. Et alors, en parlant de médecins, de 2003 à 2017, vous étiez sur RFI, vous animiez Priorité Santé, le Conseil Santé, et il paraît que dans les hôpitaux d'Afrique francophone, on vous appelait Docteur Claire.
Et alors que j'ai toujours bien dit que surtout, j'étais pas médecin, de laisser la place, quand on fait une émission de santé, c'est vraiment important de laisser les médecins répondre. Évidemment, au bout d'un moment, les réponses, on commence à les savoir. Moi, je travaillais à peu près autant que vous, donc j'étais capable de répondre à la place.
Parce que vous voyez mes 22 pages.
Mais c'est ça. Mais c'est surtout très important de ne pas répondre à la place, de ne pas se prendre pour un médecin. Honnêtement, je me suis régalée à faire ces émissions pendant un peu plus de 10 ans, pendant 13 ans. D'abord parce que aller dans un pays étranger, le gros avantage des RFI, on est mis en français dans le monde entier, ça permet de voyager. Enfin, moi, on m'aurait dit, jeune, quand j'étais étudiante, je disais toujours ça quand j'étais journaliste, ou travaillais pour France Inter ou RFI, que j'allais être payée à voyager. C'était pour moi absolument extraordinaire. Et aller dans un pays et aborder, essayer de comprendre un pays par les questions de santé, ça dit plein de choses, pas simplement des soins, mais en fait de la place du social dans la société, de quels moyens on se donne pour que les personnes aient accès aux soins, que ce ne soit pas que les privilégiés qui aient accès aux soins. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était une façon d'aborder un pays absolument passionnante, et RFI est très écouté en Afrique, donc effectivement l'impact était surtout en Afrique.
Et je vois que vous avez eu des expériences marquantes au Bangladesh, vous avez aussi rencontré le docteur Denis Mukwege de la République démocratique du Congo,
au Rwanda,
et le psychiatre Naason Munyan d'Amutsa au Rwanda. Et pardon si j'ai lu le nom au ralenti, parce que je m'emmêle les pinceaux dans mes notes. Mais vous dites que ces rencontres avec ces deux hommes, par exemple, donnent foi en l'humanité.
Ah oui. Et le docteur Munyanda Amutsa, il est compliqué son nom à dire, qui est décédé hein, depuis, qui était pendant longtemps un des seuls psychiatres au Rwanda. Oui, ça fait partie des échanges avec des personnes qui m'ont marqué, évidemment Denis Mukwege aussi, d'une humanité incroyable.
Un des seuls psychiatres au Rwanda, waouh.
Oui, vous imaginez, pendant le génocide, il était en fait en Suisse à ce moment-là, il finissait ses études, mais tout le reste de sa famille a été décimé. Et il a fait un travail extraordinaire au Rwanda pour essayer justement de reconstruire, de former des psys. Oui, ces échanges avec des hommes comme ça, mais je pourrais vous citer aussi d'autres femmes, enfin, c'est pas du tout. Et il y a des gens qui, malgré l'horreur absolue, parce qu'on est dans deux situations, ce qui se passe au Rwanda, qui est pas d'ailleurs très indépendant de ce qui se passe à l'est de la RDC, qui sont monstrueuses. Et il y a des hommes et des femmes qui font preuve d'humanité dans toute cette horreur, qui redonnent foi d'ailleurs en l'humanité, et qui ont fait preuve de courage, de constance, qui disent les choses. Les deux sont courageux, ont été courageux. Parce que évidemment, dire ce que vivent les femmes en ce moment à l'est de la RDC, il faut du courage. Voilà. Et oui, ça donne. Oui. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est que on a dit au début, on va parler de choses plutôt difficiles, mais vous voyez qu'il y a des gens aussi qui se mobilisent pour faire des choses remarquables dans ce monde qui est parfois difficile.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Claire Hédon, vous avez appris très vite que l'argent était un très mauvais guide, puisque une fois diplômée, vous avez étudié le droit à Assas et la communication au CELSA. Vous avez le choix entre deux postes, vous avez pris le mieux payé. C'était terrible, vous avez arrêté tout de suite, vous avez envoyé un CV à Radio France. Et ça, c'est sûr que Radio France, ce n'est pas l'argent qui motive.
Mais c'est vrai. Enfin, honnêtement, je me suis assise le premier jour à ce poste, et je me suis dit, je me suis trompée. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, j'avais fait le choix du poste qui était le mieux payé. Et donc, que c'était absurde. Mais cette question du « l'argent est un mauvais guide », il faut se la poser tout le temps. Enfin, c'est très régulièrement qu'on peut faire des choix. Moi, j'ai le souvenir, quand on m'a demandé d'être présidente d'un TD Quart Monde, à côté de mon travail de journaliste, j'étais déjà impliquée dans le mouvement, mais je faisais pas mal de choses, ça m'arrivait d'animer des débats. Donc, je me suis dit, tout ça, je vais plus pouvoir le faire. Et vous le savez aussi bien que moi, quand on est journaliste, on n'est pas super bien payé, particulièrement dans l'audiovisuel public.
Je ne dis rien, poker face.
Voilà. Et du coup, je me disais, c'est un problème pour moi. Et là, pareil, qu'est-ce qui aurait pu guider? J'allais refuser parce que j'allais perdre un peu d'argent. Je me suis dit, so what, c'est pas grave, quoi. Et j'ai jamais regretté d'avoir été présidente d'ATD Quart Monde. Donc, oui, cette question-là du l'argent est un mauvais guide, il faut se la poser tout le temps. Et après, c'est un luxe quand on peut se la poser aussi.
Ah oui, hein. C'est sûr.
Voilà. C'est-à-dire, j'ai conscience que pour un certain nombre de personnes, ça peut être totalement indécent de dire ces choses-là, parce qu'il y a un bon nombre de personnes. Et dans la colère que je sens, moi, dans la population actuellement, il y a deux choses. Il y a un éloignement des services publics dont on parlera, mais il y a la question du pouvoir d'achat. Cette question, elle est centrale, et la place du logement prend une place trop importante dans les budgets des personnes. Et donc ça, il faut avoir conscience que cette question des fins de mois difficiles à cause du poids du logement est une vraie difficulté.
Et je reçois maintenant Claire Hédon qui fait cette émission avec moi depuis de très nombreuses années. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'entendre Claire Hédon encore sur l'antenne de Radio Bleu. Je le disais tout à l'heure, Claire Hédon a passé ses vacances, alors que le terme est tout à fait impropre, a consacré six semaines à la cause humanitaire. C'était déjà l'été dernier. Tu étais partie en Inde.
Alors l'été dernier, j'étais partie en Inde chez Mère Teresa à Calcutta. J'avais travaillé dans ses hôpitaux pendant un mois. Et cette année, j'ai eu envie de connaître autre chose. J'ai eu l'occasion de bien connaître une association qui s'appelle Enfants du Mékong, qui en fait parraine des enfants aussi bien dans les bidonvilles en Thaïlande que dans les camps de réfugiés ou directement au Laos, au Vietnam et au Cambodge. En fait, elle intervient dans le sud-est asiatique.
Claire Hédon, est-ce que vous vous reconnaissez ?
Oui, tout à fait, je reconnais aussi celui qui
m'interview,
Philippe Réglé.
91.
C'est vieux tout ça. Mais non, je me disais juste en entendant ça, la quête de sens, elle date d'il y a un moment, moi.
Bien sûr.
C'est-à-dire de faire des choses qui ont du sens. Et j'avais très vite compris, en fait, j'étais assistante de production à Radio Bleu à l'époque, que en fait, j'étais sur les grilles d'hiver et que ça pouvait arranger tout le monde si j'étais pas là pendant 2 mois l'été. Et je me disais, bon, ça, c'est très bien, c'est une très bonne idée, quitte à mal gagner sa vie, continuons, partons 2 mois. Et je suis partie, je touchais pas les acédiques spectacles hein, pendant ce temps-là, je tiens à le dire. Et effectivement, je suis comme ça partie une fois 2 mois en Inde et puis un autre moment 6 semaines à peu près en Thaïlande. Vous savez que c'est là que j'ai rencontré en fait le mouvement Inté des Quarts Mondes. Le paradoxe.
Évidemment.
Non mais c'est un paradoxe incroyable pour moi parce que en fait, si vous voulez tout savoir, j'ai une cousine de cousine qui est plutôt d'ailleurs une filleule de ma mère.
Ça je ne savais pas.
Qui est très impliquée dans le mouvement Inté des Quarts Mondes, qui est volontaire. Et donc en fait, moi dans ma famille, j'ai toujours entendu parler du mouvement Inté des Quarts Mondes.
Mais c'est en Thaïlande que vous l'avez rencontré.
Mais c'est en Thaïlande que finalement je les rencontre. Et là, je me dis, mais c'est absolument passionnant. Je rentre et je dis à ma maman, donne-moi les coordonnées d'Anne-Marie, je vais l'appeler. C'est comme ça que je suis rentrée dans le mouvement Inté des Quarts Mondes. Donc oui, voilà. L'envie de découvrir le monde, de se rendre utile et d'essayer de comprendre aussi la société, le monde et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour être utile.
Alors, vous avez été nommé défenseur des droits en 2020, la fin de votre mandat est en juillet prochain. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'institution défenseur des droits ?
Mal connue, hein, vous
bah
êtes
oui,
d'accord,
je
suis mal
d'accord,
connue
ouais.
du grand public. D'abord, une institution qui est inscrite dans la Constitution, c'est la réforme de 2008 et la loi de 2011 qui définit ses champs de compétences et qui, globalement, on peut dire, a été créée en complément de la justice pour les personnes qui ont des difficultés d'accès aux droits dans 5 domaines. Les problèmes d'usagers de services publics, vous avez des problèmes avec la CAF, l'assurance maladie, les impôts, France Travail, qui est en fait 90% de nos réclamations. Après, la lutte contre les discriminations, puis la défense des droits de l'enfant, c'est important ce point-là, parce qu'en fait, on peut dire que ça traverse toute l'institution. Puisque des enfants en situation de handicap peuvent être victimes de discrimination, ils sont aussi usagers de services publics. Le quatrième domaine de compétences qui est... Nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Vous connaissez l'IGPN, l'IGGN qui sont des contrôles internes. Nous sommes le contrôle externe. Et je vous disais que les enfants traversaient toute l'institution. La façon dont un enfant est entendu dans un commissariat, qu'il soit auteur, témoin ou victime. Eh bien, nous aussi, on utilise nos compétences en déontologie des forces de sécurité, mais aussi sur les droits des enfants. Et enfin, protection et orientation des lanceurs d'alerte.
Mission à ajouter en 2016.
En 2016. Ce qui est très important, c'est que la loi, je dirais, elle est bien faite parce qu'elle nous donne deux missions dans ces 5 domaines de compétences. Le premier, c'est protéger les droits, donc traiter les réclamations dans notre domaine de compétences, mais aussi promouvoir les droits et les libertés. C'est que le législateur a pensé dès le début qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Et du coup, c'est absolument passionnant parce qu'à la fois, nous, dans les 160 000 réclamations qu'on a eues l'année dernière, dans 80% des cas, on part en médiation qui aboutit dans les 3/4 des cas.
Mais ça, c'est déjà exceptionnel, parce que quand j'ai lu ça, dans les 3/4 des cas, c'est très
marche.
Encourageant.
Mais oui, ça marche. Quand vous rendez... Absolument, on arrive à résoudre des problèmes au quotidien.
On peut parler à autrui.
On peut parler à autrui, on rétablit les personnes dans leurs droits, on crée de la cohésion sociale quand on rétablit les personnes dans leurs droits. Puis après, effectivement, on peut partir en instruction, on a de forts pouvoirs d'enquête, mais pas de pouvoir de contrainte. Mais c'est aussi que dans les décisions que nous rendons, ou dans les rapports que nous faisons, nous pouvons dire, ben voilà, si on veut mieux respecter les droits, voilà ce qu'il faudrait faire. Et très souvent, finalement, une institution comme la nôtre, elle voit l'écart entre le droit annoncé et son effectivité.
Bah, en lisant votre livre, je dois vous avouer qu'à chaque fois, je me disais, mais ça, ce droit-là n'est pas du tout respecté. Enfin, ça, on va le voir dans quelques minutes.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Je suis avec la défenseure des droits Claire Hédon, et donc on parlait de l'institution du défenseur des droits tout à l'heure, et donc vous faites des médiations la plupart du temps qui aboutissent, 3 fois sur 4, ce qui est énorme. Vous adressez des avis au Parlement sur les projets et propositions de loi, vous leur donnez des recommandations de réforme, vous rédigez des rapports et conduisez des travaux de recherche. Et alors, ce qui m'a frappée en vous lisant, c'est que... tout ce que vous désirez, c'est-à-dire l'accès aux droits et l'application des droits déjà existants, eh ben, à chaque fois, on est frappé de se dire quand même que la plupart du temps, ils ne sont pas respectés. C'est-à-dire que c'est presque utopique de vouloir qu'ils soient appliqués.
En tout cas, c'est ce qui fait une démocratie, c'est le respect des droits. Alors, c'est, je dirais, entre guillemets, normal qu'il puisse y avoir des difficultés, mais nous, on est là pour dire quelles sont les difficultés, quels sont les moments où c'est important de le rappeler. Et puis, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Enfin, tout le monde n'est pas victime de discrimination. Les femmes, hein, quand même très largement, c'est quand même la moitié de l'humanité. Quand vous voyez dans notre dernier baromètre que dans la vie professionnelle, dans le cours de la vie professionnelle, les femmes sont deux fois plus victimes de discrimination que les hommes. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Mais donc, il y a quand même des personnes qui ont plus de mal à faire valoir leurs droits. Et donc, il faut évidemment, celles-là, les accompagner, les aider. Parce que ce respect des droits, ce respect de la dignité des personnes, c'est quand même ce qui nous différencie des régimes autoritaires, des dictatures. Enfin, je le redisais, dans une démocratie, et moi, c'est une des choses aussi enfin, importantes en ce moment. Vous voyez bien que tout ce que j'explique, ça demande du temps. J'essaye de montrer que les personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits, elles peuvent être aussi bien précaires, étrangères, personnes âgées dans des EHPAD, des enfants. Vous voyez bien que ça peut concerner tout le monde sous une forme de vulnérabilité. Que monter les populations les unes contre les autres dans ce contexte, les personnes des zones rurales, les étrangers, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, toutes ces personnes rencontrent des difficultés assez communes d'accès aux droits et de défense des droits. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que en fait, une démocratie, on a toujours l'impression de réduire la démocratie à l'élection au suffrage universel. Mais c'est bien plus que ça. C'est la séparation des pouvoirs, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une même personne qui ait tous les pouvoirs. Enfin, Montesquieu dit que par l'organisation des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que quelqu'un qui a le pouvoir, il a envie de le garder.
Oui, c'est vrai,
on le remarque. Donc, voilà. Et donc, cette question de séparation des pouvoirs, elle est essentielle dans une démocratie. Et puis, la question des libertés, liberté associative, liberté de manifester, liberté de la presse, en tout cas, des éléments de démocratie et le respect des droits fondamentaux. C'est tout ça, une démocratie. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Et défendre cette démocratie, c'est pas aller contre l'intérêt général. Au contraire, c'est aller pour l'intérêt général.
Et alors, avec cette liberté qu'on aimerait tous avoir, assurée par la démocratie, il y a aussi des devoirs. Quels sont les devoirs du citoyen ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on se sent encore citoyen ?
Alors, cette question des devoirs, elle est importante, je la nie pas, mais on a des devoirs parce qu'on a des droits. Donc on va remettre les choses dans le bon ordre.
Allez-y.
C'est parce que vous avez des droits que de fait, après, vous avez des devoirs. Et dans les devoirs, c'est le respect des droits, par exemple, de la personne qui est en face. Ça veut dire aussi que certaines aides peuvent être mises sous condition. Ça veut dire un certain nombre de choses. Donc je n'ai pas, moi, de difficulté avec ce terme des devoirs, mais je redis dans l'ordre des choses. C'est d'abord parce qu'on a des devoirs et c'est important de le redire dans cet ordre-là. Et puis, quand même, ceux qui, à chaque fois, avancent ces histoires de devoirs, c'est quand même des personnes qui n'ont aucun problème pour que leurs droits soient respectés. Voilà.
Vous pensez que c'est mon cas ?
Non, pas du tout.
Non, parce que je prévois toutes les questions. C'est comme si je jouais aux échecs contre mon propre cerveau.
Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout un reproche. Mais souvent, la façon dont c'est utilisé dans le débat public, par exemple, je vois que ça vient de personnes qui n'ont pas de difficulté à faire valoir leurs droits. Voilà. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important de parler des devoirs. Hein. Ce n'est pas mon propos. Mais on remet les choses dans le bon ordre.
Non, mais ça, on les a remises dans le bon ordre. Je vous suis. Hein. C'est juste que comme on va parler de droits pendant toute la soirée, je voulais un peu cramer en faisant une question originale. Mais est-ce que vous pensez qu'on se sent encore citoyen ? Parce que vous avez vu le découragement de la population et beaucoup de gens ne font pas de recours parce que déjà, ils ne savent même pas que ça existe.
Alors, ils ne savent pas qu'on existe. Non, mais oui. Ça, on est tout à fait d'accord.
Alors, rappelez le site internet.
Le défenseurdesdroits.fr ou surtout le 3928, un numéro de téléphone sur les discriminations et pas que.
Et puis, il y a des bénévoles partout, dans 1000 lieux de permanence.
Oui, vous savez, c'est quand même incroyable. Pour une institution de la République, on a 260 agents, majoritairement au siège, majoritairement des juristes, et 650 délégués territoriaux qui sont des bénévoles et qui accueillent les réclamants en présentiel. C'est assez étonnant pour une institution de la République. Du coup, vous me parlez de citoyenneté. Je reviens à votre question. Ce qui est sûr, c'est que quand les personnes ont du mal à faire valoir leurs droits, à ce que leurs droits soient respectés, elles ont effectivement un sentiment d'exclusion et de ne plus faire partie de la société. Je trouve ça très fort chez les jeunes en ce moment. On sort d'ailleurs dans deux jours un rapport jeunesse et origine sur les discriminations dont sont victimes les jeunes. C'est qu'à partir du moment où vous avez vécu une discrimination, à partir du moment où vous vivez des contrôles d'identité discriminatoires récurrents, oui, vous avez l'impression de ne pas faire partie de la société et un sentiment qu'on ne vous reconnaît pas comme citoyen, mais c'est dans le regard de l'autre. Enfin voilà, c'est pas les personnes qui s'excluent elles-mêmes, mais elles se sentent exclues et ont du mal du coup dans ce cadre-là à se sentir citoyen.
L'atmosphère fondamentale, c'est une idée de protestation contre les atrocités qui s'étaient déroulées avant. Le monde entier n'avait pas pris part à la guerre, mais la découverte des camps de mort a été contemporaine de San Francisco et a appuyé, si j'ose dire, l'élan de protestation. Vous verrez que si c'est le point de départ, le point d'arrivée a été bien au-delà.
On entend René Cassin, l'un des principaux rédacteurs du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il était sur l'ORTF en 68. Et je rappelle un article que vous citez dans votre livre, Claire Edon, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » C'est à ça que je pensais quand je disais tout à l'heure que parfois on était très étonnés parce que les droits élémentaires n'étaient absolument pas respectés.
Il y a plein de choses hein, dans bah la oui. Déclaration oui. universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et ce terme de dignité, il se trouve que, et en droit est vraiment important. Ce que je trouve très intéressant, et c'était bien de passer cet extrait, parce que ça nous rappelle dans quel contexte on a rappelé ces points aussi importants, notre Constitution, et dans quel cadre on a rappelé cette exigence du respect de la dignité des personnes. Et vraiment, c'est un curseur qui est important dans une démocratie. C'est quand même ce qui nous différencie des régimes totalitaires. Et donc, c'est important d'avoir ce curseur-là en tête. Moi, quand je suis arrivée dans l'institution, j'étais très intéressée de la façon dont nous utilisions ce respect de la dignité et de la dignité des personnes dans nos décisions. C'est quelque chose qui revient fréquemment, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc oui, on s'appuie sur tout ce droit-là. Et après, vous dites, mais finalement, en fait, on a tous ces droits-là, ils sont pas respectés. Ça me fait aussi penser, moi, à la devise républicaine que j'aime beaucoup, liberté, égalité, fraternité. Et en fait, c'est un objectif, et il faut accepter qu'on n'y est pas. Et par exemple, sur cette question d'égalité, on n'y est pas. C'est un objectif. Et donc, c'est vrai que pour ça, il existe des discriminations. Il faut le reconnaître, mais ce sont des objectifs. Et ce sont des objectifs et des valeurs que je trouve absolument magnifiques. Et la fraternité, par les temps qui courent, c'est bien de la rappeler.
Oui, et puis c'est rare. Rare et précieux.
Soudainement, quand on prend conscience de ce qu'on appelle la vulnérabilité, mais la vulnérabilité, c'est simplement une manière d'être. C'est notre monde qui nous explique que c'est déficitaire. Mais c'est pas du tout déficitaire. C'est parfois la beauté, au contraire, à l'état pur. Un verre de cristal, c'est une chose magnifique. Si, bien évidemment, vous attrapez un verre de cristal avec un gant de boxe et que vous sautez dessus, de fait, vous le brisez. Donc, il y a ce qui est posé comme vulnérabilité, très souvent, c'est la fine fleur de l'âme, comme on dit.
Claire Edon, je sais que vous êtes sensible à la notion de vulnérabilité telle qu'elle est décrite par Cynthia Fleury, qu'on entend dans L'Heure Bleue sur France Inter en 2019. C'est une notion que vous prenez en compte autant que la dignité. Et dans tout ce que vous avez lancé comme projet, il y a par exemple celui-là qui a frappé mon attention. C'est que vous voudriez que chaque parent soit accompagné, et vous parlez d'accompagnement et non pas de répression, accompagné dans sa parentalité. Ça, je trouve ça très intéressant.
Cette question de soutien à la parentalité, elle est absolument essentielle en termes de protection de l'enfance, en termes de lutte contre la délinquance. J'ai le souvenir, je suis issue du terrain, hein, et je continue à aller beaucoup sur les territoires pour plusieurs raisons. D'abord, c'est important pour moi de rencontrer nos délégués territoriaux qui sont un bon pouls de la société et de ce qu'ils voient. Et puis, j'ai besoin de voir les associations, les élus locaux, le préfet, différents acteurs pour essayer de comprendre les difficultés. Et quand on était à Verdun, je suis allée à la Maison des Adolescents. La Maison des Adolescents de Verdun disent que par le soutien à la parentalité, ils évitent effectivement des placements, par exemple, d'enfants. Donc, il y a des parents, des moments, qui sont en situation difficile. Je veux dire, eux-mêmes ont des difficultés d'emploi, de logement, et donc être soutenus dans leur façon d'éduquer les enfants. Et c'est vraiment un soutien, je veux dire, c'est pas des cours de parentalité, c'est vraiment un soutien. Oui, c'est absolument essentiel. Puis, je voudrais revenir sur la question de la vulnérabilité, parce que moi, ce qui me frappe, c'est la vulnérabilité qui crée les possibilités d'atteinte aux droits. Et vous voyez bien qu'on peut aussi bien parler de personnes âgées en EHPAD, d'enfants, d'adolescents, de victimes de discrimination, donc de personnes en situation de handicap, de situations très, très variables. Et en fait, moi,
à un moment T, là, je ne me sens pas, moi, en situation de vulnérabilité, mais moi, ça me rassure de savoir qu'on est dans une démocratie où si je me retrouve en situation de vulnérabilité, il y aura du monde pour s'occuper de la défense de mes droits, de ma dignité, de mes besoins fondamentaux. Et souvent, enfin, si on prend, par exemple, la question des EHPAD, on voit bien la confrontation aussi avec les moyens financiers qu'on est prêt à y mettre pour respecter les droits des personnes. Et je pense que ça reste une priorité de respecter les droits des personnes.
Là, tout à l'heure, vous avez évoqué, enfin, d'ailleurs à plusieurs reprises, la protection de l'enfance, et vous dites dans votre livre qu'elle dysfonctionne à tous les échelons. Vous parlez notamment des retards de traitement des dossiers.
Retards de prise en charge, donc de décision de juge des enfants, c'est quand même incroyable. C'est une décision de justice qui n'est pas appliquée ou qui met énormément de temps à être appliquée, que ce soit dans le cadre d'une demande d'accompagnement en milieu ouvert d'un jeune ou de cadre d'un placement d'un jeune, qui ne sont pas effectués par manque de foyer d'accueil, par manque de famille d'accueil, par manque de moyens et donc de mise en danger d'un certain nombre de personnes. Mais ce qui est très frappant sur ces questions de protection de l'enfance, et on en revient aux questions de soutien à la parentalité, c'est qu'il faut absolument aider plus les familles, accompagner. J'en reviens à la question du logement. Moi, je défie quiconque de ne pas être en situation de carence éducative si vous élevez trois enfants dans 15 mètres carrés. Enfin, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prévoit en termes d'accompagnement et d'aide de ces familles? Du droit à revenu minimum pour pouvoir accompagner les enfants et les élever? Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser très régulièrement.
Alors, en parlant d'argent, vous dites, parce que souvent on parle de l'assistanat et de la fraude sociale, pour critiquer. Vous dites qu'en 2024, près de 450 millions d'euros de fraude ont été détectés par les CAF, soit environ 0,4% des montants versés aux allocataires. Alors, le pourcentage paraît très bas en effet, mais bon, 450 millions d'euros, c'est une somme quand même difficile à imaginer. Et par la suite, vous ajoutez que l'essentiel de la fraude sociale ne vient pas des allocataires, mais selon les données de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, des employeurs via le travail dissimulé. Ce sont donc des fraudes patronales. Et alors là, c'est 6,9 milliards d'euros par an, soit 15 fois plus que les fraudes détectées par les CAF. Mais frauder pour prendre de l'argent à l'État, est-ce que ça revient vraiment à frauder pour ne pas en donner à l'État ?
Refaites votre question.
Frauder pour prendre de l'argent à l'État, donc par exemple pour les aides qu'on reçoit, est-ce que ça revient au même que les patrons qui fraudent pour ne pas donner d'argent à l'État ?
Ben oui, c'est de la fraude de toutes les manières. Ça, c'est important. Et moi, dans ce que je dis sur la fraude, c'est que c'est important de lutter contre la fraude. À aucun moment, je dis qu'il ne faut pas lutter contre la fraude. Mais moi, ce que je peux observer dans une institution comme la nôtre, c'est que des personnes sont accusées de fraude alors que ce sont des erreurs. La loi ESSOC, en 2018, elle vraiment concrétise, enfin consacre le droit à l'erreur. Et nous, ce qu'on voit, et on arrive à faire requalifier, tout ça, hein, en médiation, très souvent, à faire requalifier par les organismes sociaux quelque chose qui était considéré comme de la fraude sur une erreur. Et c'est quand même pas à la fois le même plan de remboursement, ni les mêmes amendes. Et donc, oui, lutter contre la fraude, mais quand on va sortir aussi un rapport, justement, sur cette lutte contre la fraude et l'impact que ça a, finalement, sur l'accès au droit. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, moi, le projet de loi, hein, la proposition de loi qui est en discussion en ce moment au Parlement, elle m'inquiète énormément. Parce que sur une simple suspicion de fraude, on pourra vous arrêter tous les versements. Mais je trouve que c'est excessivement inquiétant. Quand il y a fraude, c'est quand même à l'organisme social de prouver qu'il y a eu fraude et pas à la personne de prouver qu'elle n'a pas fraudé. C'est quand même dans ce sens-là que ça doit se passer. On ne doit pas avoir un renversement de la charge de la preuve. Et puis je rebondis aussi sur le terme assistanat. Tous ces termes sont excessivement délétères pour les personnes. Moi, j'ai passé 28 ans dans le mouvement ATD Carmonde. Je n'ai jamais vu des gens bénéficier des minima sociaux par plaisir. J'ai plutôt vu la honte, l'envie de travailler. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'envie d'être inséré dans la société. Donc, accuser les gens qui ont toutes les peines du monde à trouver du travail, à trouver un travail décent, qui ont des problèmes de moyens de transport, les dire que ce sont des assistés, mais enfin, c'est d'une indécence, en fait, absolue.
Dans La République des droits, vous nommez les trois mythes qui minent l'état de droit de l'intérieur. Il y a l'assistanat à la fraude, j'ai fait exprès d'employer ces mots, puisque c'est justement un mythe. Deux, selon vous, deux, celui de l'étranger inassimilable, et un, celui de la jeunesse ensauvagée. Et là, j'aimerais bien qu'on parle des forces de l'ordre, puisque ça m'a vraiment surprise. Vous dites que près de 40% des policiers et gendarmes jugent que les contrôles d'identité sont peu ou pas efficaces, alors que c'est justement sur ça que vous aimeriez agir.
Cette question des contrôles d'identité et des contrôles d'identité discriminatoires, c'est quelque chose sur lequel l'institution travaille depuis des années, je dirais depuis ses débuts. Il y a quand même eu des avancées, parce qu'on a une condamnation de l'État de la Cour de cassation, confirmée dans une cour d'appel de Paris sur un contrôle d'identité discriminatoire Gare du Nord. La France a été condamnée quand même par la CEDH dans une situation. Le Conseil d'État, certes, ne va pas dire jusqu'à c'est systémique, mais dit c'est pas fait de façon anecdotique et ça a un impact délétère sur les personnes. Et puis surtout, on a l'étude de la Cour des comptes à qui j'ai demandé d'évaluer finalement le nombre de contrôles d'identité pour quelle efficacité. 47 millions de contrôles d'identité, 32 millions de contrôles d'identité pure, 15 millions de contrôles routiers. Sur les 15 millions de contrôles routiers, les forces de l'ordre sont capables de vous dire le pourcentage de personnes sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, sans carte grise, sans assurance, sans permis de conduire. Et sur les 32 millions de contrôles, incapables de dire à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y trouve. Et donc, la Cour des comptes, qui n'est pas l'organe le plus révolutionnaire que la Terre ait créé, a quand même dit de façon exactement les mêmes choses que ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut une traçabilité globale, une traçabilité individuelle.
Comme
pour
en Grande-Bretagne.
Un contrôle du parquet, une meilleure formation. Je dis que sur cette question-là, il faut absolument avancer. On ne peut pas rester dans cette situation de blocage, parce que pour des jeunes, c'est leur premier contact avec les forces de sécurité. C'est cette question des contrôles d'identité, l'impression d'être contrôlé en permanence, ne comprenant pas pourquoi. Et évidemment, c'est quelque chose qui... Vous parlez ce sentiment d'être citoyen, ce sentiment d'être différent. Quand vous êtes en permanence contrôlé, vous avez cette impression de ne pas être considéré comme un citoyen comme les autres.
Ils ont partagé le monde. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
J'aurais aimé ne pas qualifier cette chanson d'atemporelle, mais elle l'est. « Plus rien ne m'étonne » de Tikenja Fakoly, c'est votre choix musical, Claire Edon.
Oui, j'aime bien ce reggae man. D'abord, j'aime bien le reggae. Allez savoir pourquoi. C'est pas forcément mon profil, mais j'aime bien ces chansons, je dirais à texte et les paroles. Et puis en fait, c'était aussi pour vous dire à quel point moi RFI m'a fait vraiment découvrir l'Afrique et particulièrement l'Afrique francophone. Et j'ai été particulièrement intéressée de ce que j'ai pu rencontrer, de ce que j'ai pu entendre, de mobilisation. Et voilà, j'ai gardé de bon passage. Mon long passage à RFI, une attention et un amour particulier pour l'Afrique.
Alors, direction l'Italie, pour votre découverte, c'est l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante.
Oui. Et je me suis... Alors c'est, d'abord, c'est un livre que j'ai lu, en fait, je vous ai cité ça, mais il y a déjà pas mal d'années. Et j'étais intéressée, parce que, en fait, pour tout vous dire, tout à l'heure, je suis allée regarder qu'est-ce que dans Wikipédia on disait sur ce livre. Et il parle beaucoup d'une amitié entre filles, d'un roman féministe. Et moi, c'est pas tout à fait cette partie-là que je retiens. Et parce que j'ai hésité entre deux livres, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce que j'en retiens, c'est l'histoire de deux jeunes issus de quartiers très défavorisés de Naples. Et de deux jeunes intelligentes, hein, mais finalement, il n'y en a qu'une qui poursuivra des études et pas l'autre. Et cette question de la chance ou de la malchance, du mérite, en fait, et parce que les deux avaient du mérite, et s'il y en a une qui réussit, c'est pas du tout qu'une question de mérite. Et on est dans une société qui se veut très méritocratique. En gros, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez réussir. Et c'est un bel exemple de non, c'est bien plus compliqué que ça. Et l'autre livre auquel j'aurais eu envie de vous parler, c'est de Chimamanda Ngozi Adichie, je sais pas, Americana, si vous l'avez lu. Mais pour très moi bon aussi, livre. Ce que je retiens de ce roman, c'est des parcours migratoires, deux parcours migratoires. Elle réussit et son copain de l'époque en Grande-Bretagne ne réussit pas. Et il y a un facteur chance et il faut accepter ça. Enfin, je veux dire, tout ne passe pas par le mérite. Il y a des gens qui, à un moment, ont croisé les bonnes personnes, qui les ont aidés, accompagnés et qui leur ont permis de réussir. Et c'est pas que la question du mérite. Il y a une forme, oui, de ce que je veux faire passer, d'injustice dans des parcours. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire par ça, c'est qu'on peut pas tout attendre de l'Amérique et qu'il faut aider les jeunes à réussir.
Ça, c'est vrai. L'idéologie, je m'en méfie parce que ça tourne très vite au dogmatisme. Politique, religieux, philosophique même. Les dogmatismes, pour moi, c'est un chemin du totalitarisme. Quand on voit ce qu'était devenu l'idéal communiste à l'Est, j'ai connu des jeunes communistes à la Libération, fiers d'avoir libéré leur pays et le monde, qui tombaient dans les bras des jeunes Américains qui avaient perdu leurs jambes dans le Pacifique, etc. Et on voit que tout ça, après, l'idéologie totalitaire est terrible. Alors que l'utopie, c'est l'anticipation militante. Alors, l'anticipation militante, l'utopie, on voit plus loin. L'utopie, on ne se résigne pas au présent, au réel. On va le transformer, mais pas par un dogmatisme. On va faire ce qui est possible. Peut-être une action immédiate. Peut-être, au contraire, une philosophie de transformation de l'existence. Alors ça, si c'est pas un dogmatisme, ça me va bien. Mais je veux que ça s'incarne.
C'est Paul Bouchet qu'on entend sur France Culture en 2011. Claire Hédon, en 2025, le 26 octobre plus exactement, vous êtes intervenue au Collège de France lors d'un hommage à Paul Bouchet et Mireille Delmas-Marty, deux figures majeures de la défense des droits humains. Et je voulais qu'on entende sa voix parce qu'elle est très belle. Et je trouve que ce qu'il dit est très
beau. Et il a été président d'ATD Carmonde, Paul Bouchet, en fait. Et oui, pour moi, c'est des personnes, et avec son épouse, Mireille Delmas-Marty, qui ont beaucoup réfléchi la société, réfléchi le droit, et avec un vrai souci de ce droit accessible à tous et des difficultés qu'un certain nombre de personnes pouvaient rencontrer pour faire valoir leurs droits.
Est-ce qu'il y a des livres qui ont été un appui pour vous ?
Des livres ou des personnes. Enfin, vous voyez, Paul Bouchet a été un appui pour moi, une façon de penser.
Des lectures qui vous ont permis de ne pas être découragée parfois.
J'aurais, comme ça, spontanément, plutôt envie de vous citer des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont accompagnée, aidée, qui m'ont aidée à réfléchir ce qu'on veut comme société. Ce que je trouve aussi passionnant dans l'institution du défenseur des droits, c'est que je suis entourée de gens remarquables, absolument convaincus de cette importance du respect des droits, osant aussi aller assez loin dans qu'est-ce qu'on veut défendre comme droit, qu'est-ce qu'on veut défendre pour des personnes qui sont plus en difficulté, comment se rendre aussi de plus en plus accessible, parce que c'est une vraie question, et se faire connaître. Voilà, moi, si j'en suis là, c'est que j'ai été accompagnée et aidée.
Et je rappelle, le site internet, c'est défenseurdesdroits.fr, et il a été, vous avez fait en sorte qu'il soit plus clair justement et plus facile d'accès. Merci beaucoup Claire Hédon. Je rappelle que votre ouvrage La République des droits vient de paraître au Seuil avec deux textes rebonds en fin d'ouvrage signés par des figures de premier plan de la justice en France. François Molins, ancien procureur général auprès de la Cour de cassation, et Soraya Mranimeki, professeur des universités à l'école de droit de Sciences Po. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Adèle Caglard.